Notre ami Emmanuel Kant aurait dit la tshuva par crainte, c'est une tshuva hétéronome. C'est une tshuva qui puise sa puissance hors de la valeur intrinsèque du bien. La tshuva me'ava fait une tshuva autonome. Le bien par amour du bien. Donc, ce premier mouvement de tshuva ad Hashem, jusqu'à Dieu sans Dieu, parlez-moi de tout, mais ne me parlez pas de Dieu. D'ailleurs, j'ai vu, on a imprimé une Haggadah de Pessah édulcorée pour athéistes délicats. Il y a tout sauf Dieu. Autrement dit, par de grands miracles, nous a sortis d'Égypte. Et nous avons vu la main de... Quand j'avais 6 ans, il y avait des jeux comme ça. On chantait des chants en sautant des mots. Une Haggada de Pessah sans Dieu. Et c'est un processus qui est, comment dire, dicté par des événements extérieurs. C'est écrit explicitement. Étant donné qu'en exil, il t'est arrivé ceci et cela, ça t'amènera à prendre les choses à cœur et à revenir à Dieu, sans Dieu. Voilà. C'est l'exil. L'exil nous a forcés à retourner en Eretz Israël. C'est ce qui s'appelle l'argument de Herzl, qui disait, moi, j'aime bien habiter à Vienne, mais je préfère habiter en Israël vivant qu'à Vienne mort. Alors vous voyez, ce brillant capitaine Dreyfus, etc., etc., ne peut pas faire confiance à quiconque sur le monde, sur terre, même aux Français. Alors, si on ne peut pas faire confiance aux Français, tout est perdu. Il n'y a plus qu'à créer un État juif. Vous comprenez, dit Herzl. Moi, je ne suis pas intrinsèquement pour un État juif. Moi, je préfère être viennois. Voilà. Wiener, pas à Wiener. Mais il faut. Il y a des limites à l'aveuglement juif. C'est impossible. C'est pourquoi il nous faut un État pour nous. Et nous, juifs, nous nous protégerons. Ça ne veut pas dire que nous n'allons pas nous entre-discutailler sans arrêt. Mais en tout cas, nous nous protégerons devant l'ennemi. Et cette prise de conscience, après, chez Herzl, elle s'est approfondie à la fin de ses jours, comme il écrit, il n'y a pas de retour. L'état des juifs, ça doit être un état juif. Et il n'y a pas de peuple juif sans sa Torah, etc. À la fin de ses jours, il a saisi que ça impliquait également un ressourcement, comment dire, culturel, etc. C'est l'exil qui nous force la main et qui nous oblige à retourner à Eretz Israël, qui nous oblige à nous rapprocher de Dieu, qui nous de Dieu, au moins, aux valeurs qui sont d'origine divine. Et c'est donc une tshuva, comment dire, équivoque. C'est une tshuva sans tshuva. C'est quand même une tshuva. Comment dire? Du point de vue des profonds ressorts de l'âme, il y a une grande carence. Mais du point de vue pratique, il y a quand même un rapprochement immense de tout ce qui est juif, de tout ce qui est Torah, de tout ce qui est divin. Et ce premier stade, le Shavta ad Hashem, qui comporte une certaine écoute de Dieu, vivant Dieu sans Dieu, est suffisante pour enclencher la réponse divine, à savoir le retour en Eretz Israël. C'est après qu'apparaît dans le peuple juif une prise de conscience qu'il faut retourner en Eretz Israël, que c'est impossible, que l'exil c'est une trahison, que l'exil culturel aussi c'est une trahison, les événements se précipitent. Et le fleuve du retour en Eretz Israël grandit et le pays est construit, etc. Deuxième étape, chapitre, verset 3, 4, 5, 6. Umal Hashem Elokecha et Levavra. Dieu circoncira ton cœur. Et Levav Zaracha. Lava et Hashem. Une circoncision du cœur. Une opération à cœur ouvert. Il faut faire attention au terme. Dieu circoncira ton cœur. Ce qui semblerait signifier que nous resterons passifs. Et puis Dieu, il n'aura qu'à agir. Une fois, j'étais à Haïfa, visiter un sage, comment ça s'appelle, antisionniste. Grand sage, grand antisionniste. On m'a expliqué que par rapport à lui, Neturei Karta était des sionistes. Donc, je devais lui poser un certain nombre de questions. J'ai dit, voilà, je suis venu à Haïfa donner un chiour au Machon Meir, ces instituts pour répandre la Torah, etc. Alors je suis venu chez vous. Oui, il m'a dit oui. Avec un déplaisir intense vis-à-vis de ce Machon Meir. Je lui ai dit, c'est un truc pas mal, le Machon Meir. Ça répand le judaïsme. Il m'a dit, ça n'amène assurément pas des gens à la tchouva. Je lui ai dit, effectivement, pas chacun qui vient à une conférence devient immédiatement un Baal Tchouva. En tout cas, ça le rapproche. Mais un certain nombre d'entre eux deviennent des Baal Tchouva. Alors assurément, il ne le reste point. Je dis, tout à fait possible, et je suis conciliant. Hein. Tout à fait possible qu'après ils se rétractent, mais un certain nombre d'entre eux restent. S'il en est ainsi, ils ne vont pas étudier dans des yeshivot. C'est l'injure supérieure. Parce que le peuple juif se divise en deux. Ceux qui étudient dans les yeshivot, et puis le reste, c'est la plèbe, c'est la glèbe, c'est rien. Ce sont des ratés de l'histoire. Donc, être élève de yeshiva ou ne pas être. Celui qui n'est pas élève de yeshiva, je sais pas, c'est une race de sous-hommes, enfin, c'est pas... C'est un truc bizarre, je sais pas. Un déchet industriel. Je lui ai dit, c'est exact que pas tous deviennent des élèves de yeshiva, mais un certain nombre d'entre eux le deviennent quand même. Alors il m'a dit, alors ce ne sont pas des vrais, comme le montre leur présentation extérieure, évidemment. Car un élève de yeshiva doit être vêtu de noir, une chemise blanche et une, comment ça s'appelle, chapeau. L'angle du chapeau est révélatrice de l'institut dans lequel il étudie. Dis-moi quel est l'angle de ton chapeau et je te dirai où tu étudies. C'est ce qui s'appelle de la triangulation, de l'angulation religieuse. Donc un élève de yeshiva est obligé d'être vêtu de la sorte. Car comme chacun sait, c'est ainsi que Maïmonide était habillé, c'est ainsi que Rashi était habillé, etc. Comme le démontrent toutes les photos. C'est intéressant, j'ai lu dans le livre d'histoire que le fait que les élèves de Yeshiva sont habillés avec des, comment ça s'appelle, khalifa, costumes, c'est une innovation de Rabbi Israël Salanter. Rabbi Israël Salanter était un grand sage de Russie. Il a eu vent qu'à Paris, il y a des problèmes religieux. Oh, c'est une offense. Mais enfin, il a eu vent de ça. Alors il est venu régler ses problèmes. Comme il est écrit, ne lis pas Paris, mais pourri. Effectivement, il a œuvré. Et il a été impressionné par les étudiants à l'université. Et les étudiants étaient effectivement à cette époque vêtus de costumes. On l'a dit en fin de compte, les élèves des yeshivot, ce sont des étudiants, ce sont des scientifiques. La Torah, c'est une science. La Torah, c'est pas une occupation d'espèce, de réserve d'indiens. C'est pas des espèces de rites bizarroïdes. Ce sont des scientifiques. C'est toutes sortes de sciences. La Torah, c'est la science pour faire réussir toute l'histoire humaine. Donc ce sont des scientifiques, donc ce sont des étudiants. Donc ils doivent être habillés comme des étudiants. Parce qu'avant, ils étaient habillés comme des cosaques. Ce sont des vêtements grossiers. Non, ce ne sont plus des paysans, non plus des cosaques, ce sont des étudiants. Étant donné que ce sont des étudiants, ils doivent être habillés comme des étudiants. C'est la raison historique. Mais depuis, c'est resté comme si c'était consacré sur le mont Sinaï. Vous savez, les gens, les religieux, c'est des gens lourds. Puis quand on arrive à les faire bouger, après, ça reste pour des siècles. Donc en tout cas, ce ne sont pas des vrais étudiants de religion, des étudiants de yeshivot. Puisque c'est l'habit qui fait le moine de yeshiva. Donc cette objection était d'une si grande force et d'une si grande profondeur que je n'avais pas de réponse prête. Alors j'ai fait une contre-attaque. Comme judo. J'ai dit, vous avez raison. Ça sert à rien. Il ne faut pas, Marcon Meir, il ne faut pas rapprocher les gens à la Torah. Non, on arrête tout. Alors qu'est-ce que vous proposez pour amener les gens au judaïsme? Ah, alors c'était lui qui était embarrassé. Ouais, parce que ça, c'est pas bien. Alors qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que vous proposez? Alors il réfléchit et puis il dit, il arrivera quelque chose. C'est forcé. Dieu est obligé de faire arriver quelque chose et le peuple juif dans sa totalité fera tchouma. Voilà. Deus, ça se restitue, Deus ex machina. Tout à coup, Dieu apparaîtra du firmament et tous nos cœurs deviendront des cœurs d'or, etc. Bon, d'accord. Dis-moi, je suis pas contre. Hein. Mais en attendant, nous, on va quand même continuer à travailler. Et puis si au milieu, Dieu fait ça, ça ira. Possible. Mais à première vue, il a raison. Car il est écrit, « Ou mal Hachem et l'Okaret l'Evafra. » Dieu circoncira ton cœur. C'est Dieu qui circoncira. Il n'est pas écrit, « Tu circonciras ton cœur. Hein? » Donc à première vue, il a raison. Mais à deuxième vue, et à troisième vue, il n'a pas raison. Car comme le dit Maïmonide dans son guide des égarés, le verset omet les causes secondes. Le verset omet les causes médianes. Quand il est écrit dans la Torah que Dieu nous apportera de la pluie, nous comprenons bien qu'il ne sera pas placé dans le ciel avec un petit arrosoir divin. Nous comprenons que ça passe à travers des phénomènes climatiques. Mais que, comment dire, ce qui travaille au sein de ces phénomènes, c'est la volonté divine. Et quand il est écrit « Mashiv haruach », que Dieu fait souffler le vent, ben, ça fait longtemps, nous, qu'on a fini avec la conception animiste, que dans le vent, il y a un petit dieu joufflu. Sympathique, joufflu. Non, c'est fini. C'est Dieu agit à travers les phénomènes, à travers les lois de la nature, à travers les lois de l'histoire. Et effectivement, aussi à travers l'homme. Si Dieu circoncira nos cœurs, c'est à travers les éducateurs, à travers l'œuvre ininterrompue d'éduquer, de convaincre, d'expliquer, d'élucider, d'éclaircir. Il n'y a pas besoin de nous l'expliquer à chaque fois. on le sait une fois pour toutes. Nous savons également que s'il est écrit que Dieu a, que si le roi Salomon, il est écrit, il a construit le temple, construit un palais, assurément, il n'a pas touché une seule brique. Il a construit à travers l'architecte qui a transmis à l'ingénieur qui a transmis, etc., à l'entrepreneur qui a transmis, à l'ouvrier qui a transmis, au sous-ouvrier qui a transmis, au sous-ouvrier adjoint, etc. Mais le verset abrège. Salomon a construit un palais. Ce que Dieu circoncit nos cœurs, c'est à travers l'effort éducatif des êtres humains. Et là, une grande remarque s'impose. Et levavra, vet levavzara. Ton cœur est le cœur de ta descendance. Et c'est la même chose. Mon cœur est le cœur de ta descendance. Qui c'est toi? Toi. Toi, c'est le peuple juif. Alors, qu'est-ce que c'est le peuple juif et la descendance du peuple juif? Mais là apparaît une profonde remarque, comme le disait le Rav Kook, que les instruments d'explication de la Torah qui conviennent à toi ne sont pas ceux qui conviennent à ta descendance. Évidemment, la Torah, elle est éternelle. Évidemment, elle englobe l'histoire d'avant l'histoire et d'après l'histoire. Mais les instruments pour expliquer cette Torah, ou selon les termes des profonds de l'ésotérisme juif, les vêtements qui enveloppent les idées, ces vêtements doivent changer durant les générations. Si je prends mon voisin de la Shomer HaTzair et que je lui enseigne le livre Réchit Rochma de Rabbi Elie de Vidas, c'est un livre d'une suprême sainteté, mais à lui, ça lui dit rien. C'est comme si je parlais en turc ou en espagnol, des choses tellement profondes en turc, avec un tellement grand enthousiasme. Oui, pour moi, c'est du turc. J'y comprends rien. C'est de l'hébreu pour moi. Donc, le langage, le style doit être changé. C'est ça le problème. Ce qui a entraîné l'hérésie dans le peuple juif, le refus de la Torah, c'est pas parce que cette Torah doit être modifiée, mais parce qu'elle a été présentée à travers des instruments de pensée qui ne convenaient plus à la génération. Parce que nous ne sommes pas les mêmes. L'homme juif de notre époque, ce n'est pas le même homme juif d'il y a 300 ans. Il a d'autres problèmes. Il a d'autres richesses de pensée. L'homme goy aussi. Ce n'est pas le même. C'est un autre. Et lorsque les éducateurs reste en retard de la génération et qui continue à parler en style archaïque, et bien ce sont eux qui sont responsables des désordres. Et c'est pourquoi nous sommes obligés d'enseigner cette Torah à travers un enseignement qui est enrichi de toutes les richesses de la culture générale que, bon gré mal gré, pourquoi pas, bon gré, qui ont pénétré en nous. Donc, il faut un autre enseignement pour nous les vieux, pour nous l'ancienne génération et pour les nouvelles générations. Donc, c'est le deuxième stade. On circoncit les cœurs. On fait apparaître un enseignement adapté, un enseignement pour les anciennes générations, un enseignement qui est appartient, qui est plausible aux nouvelles générations. Quatrième stade, troisième stade, verset 8. Vas-y, ta kol mitzvotav. Ah, les mitzvot. C'est enfin le judaïsme de mitzvah. Avant, donc, il ne s'agissait pas d'un judaïsme de mitzvah. Qu'est-ce un judaïsme qui n'est pas encore de mitzvah? C'est un judaïsme de foi, un judaïsme d'adéquation générale, mais qui ne se traduit pas encore par la sainteté des mitzvot. Et mitzvotav. Et la dernière étape, c'est ta chouva l'Hachem et l'Okera. Se rapprocher de Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme. C'est plus qu'un judaïsme de mitzvah. C'est un judaïsme de ferveur. C'est un judaïsme de dvekout, d'attachement à Dieu. Donc, quatre étapes. Le judaïsme. Sans Dieu. Le judaïsme de foi. Le judaïsme de mitzvot, le judaïsme de ferveur. Le premier judaïsme, c'est une espèce de judaïsme national, si vous voulez. C'est un judaïsme de contrainte. Parfois, c'est un judaïsme folklorique. Alors, je ne dis pas que monter en Eretz Israël, c'est du folklore, mais parfois. C'est du folklore. Une fois, j'étais dans un kibbutz, donné un chiot. Puis en attendant, Mon hôte, donc moi je suis l'hôte, lui c'est possible. Moi je suis l'un, lui il est l'hôte. Alors mon hôte m'a dit, ben voilà, chez nous on avait l'habitude, le Shabbat, l'El Shabbat, fait un repas ensemble, tout le kibbutz, d'allumer des bougies de Shabbat. Quand? Pendant le repas. Alors il y en a un qui a dit, oui mais pendant le repas. C'est déjà Shabbat. Alors comment vous allumez des bougies de Shabbat, le Shabbat? Shabbat, on n'a pas le droit d'allumer. Mais alors quoi? Parce que tu veux me dire qu'à partir d'aujourd'hui, tu ne vas pas allumer du feu le Shabbat? J'ai pas dit ça. Mais allumer des bougies de Shabbat, le Shabbat, c'est une contradiction inadjecta. C'est impossible d'allumer des bougies de Shabbat, le Shabbat. Bon, alors qu'est-ce qu'on va faire? Après de longues conférences plénières, ils ont décidé que le Toran, comment dit Toran, le dresseur de table attitré, eh bien, allumerait toutes les bougies de Shabbat avant le repas. Deuxième épisode. Alors, le repas du Shabbat, on fait des lectures. Akra'a. Des lectures de morceaux choisis sur le Shabbat. Alors, ils ont lu beaucoup de morceaux choisis. Puis après, ils ont choisi tous les morceaux choisis, ils les ont finis. Puis le responsable du choix des morceaux choisis, il s'est desséché. Puis il a dit, j'ai fini tous les morceaux choisis. Alors il y a un type qui a dit, j'ai trouvé un nouveau morceau choisi. Là il y a un bouquin, si dur. Alors il y a un truc là, qui douche. Ça a l'air pas mal pour le Java. Qui douche. Alors tous ont vérifié ce morceau choisi. Vraiment. Un morceau de choix. Donc ils ont décidé de dire ce morceau choisi. Il était tellement choisi qu'ils ont continué à le dire. Parce qu'un morceau choisi, ça devient casse-pied, il faut le changer de temps en temps. Mais ça, c'était un morceau choisi comme s'il était fait pour. Alors ils ont décidé de dire ce morceau choisi. Très bien, il a dit, il va faire le kidouche sans couvre-chef. Impossible. Qu'est-ce que tu veux me dire qu'à partir d'aujourd'hui, tu vas aller avec une kippa? J'ai pas dit ça, mais on peut pas faire un kidouche sans kippa. C'est une contradiction, un père. Conférence plénière, le kidouche sera fait avec kippa. Elle m'explique, tu vois, c'est une, comment dire, une conquête par étapes. Oui, mais ça, c'est très bien, mais c'est encore un judaïsme sans judaïsme. C'est pas ça. C'est uniquement la première étape. Comment dire? C'est un, le Rav Kook appelle ça, c'est un honneur en face du judaïsme. Kvod Adat. C'est un respect de la religion. Non pas respect dans le sens de pratique, mais c'est une attitude qui n'est pas méprisante. Mais ce n'est pas encore une adéquation. D'après le Rav Kook, le grand retour du peuple juif vers la Torah traverse 4 étapes. Kvodadat, Trivatadat. Limudadat, Kiyumadat. Dat, c'est religion. Kvodadat, l'honneur dû à la religion. Savoir, je ne suis pas religieux. La religion, c'est un truc dépassé. Mais je reconnais que ça nous a été utile pendant l'exil. C'est ça qui nous a gardés. Chapeau. Kippa. Voilà. Donc j'ai du respect. Après, ribatadat. J'ai de l'affection pour ça. Je ne respecte pas. Mais c'est des trucs pas mal. C'est joli, hein. C'est plaisant. C'est attirant. Tout d'abord, il faut avoir du respect. On ne peut pas avoir de l'attirance sans respect. L'attirance sans respect, c'est un regard, comment dire, paternaliste, de haut en bas. Et après, l'imoudalat, l'étude de la religion. On ne peut pas avoir étude s'il n'y a pas attirance, s'il n'y a pas intérêt, s'il n'y a pas affection. Et après l'étude, kiyumanat, le respect, la pratique de la religion. C'est cette démarche quaternaire que nous trouvons ici également. Évidemment, car, comme chacun sait, tous les quatre, sauf ce qui est trois ou cinq, mais soyons sérieux, tous les quatre, les quatre coupes de Pessah, les quatre enfants qui posent des questions, les quatre, évidemment, les quatre lettres du tétragramme. Donc ces deux processus de reconstruction nationale et de reconstruction spirituelle, ils sont insérés l'un dans l'autre. Avant de vous permettre des questions, d'ailleurs je vous ai toujours permis, mais je vais encore un peu plus serrer ce problème du déterminisme de ces phénomènes et de la place qui est laissée à la liberté humaine. C'est vrai que sans retour, sans tchouva, il ne pourra pas y avoir de reconstruction de la nation. C'est vrai, c'est indéniable. Mais nous sommes certains que cette tchouva arrivera. Nos garanties, elles sont infiniment plus profondes que toute autre garantie. Nos garanties, à l'échelle de l'humanité entière, c'est la nature intrinsèque de l'homme qui a été créé à l'image de Dieu. Et à l'échelle du peuple juif, eh bien, c'est l'identité juive qu'on peut bafouer, mais seulement provisoirement, qu'on peut trahir, mais seulement provisoirement. Mais le naturel est obligé d'éclater à la fin. Mais c'est à travers notre effort que ça se passe. Ces phénomènes que nous traversons actuellement, ils sont effectivement inconditionnés. Mais ils passent quand même à travers notre liberté. Ce sont des problèmes dont avaient déjà traité longuement nos sages que nous appelons premiers, Maïmonides, etc. Ils en ont traité du point de vue philosophique. C'est le bourbier dans lequel sont tombés les Motekalémines. C'est les philosophes arabes de... Comment ça s'appelle ? À son sou. C'est de la philosophie qui n'a pas de grande valeur philosophique. Mais seulement je vais vous illustrer ça par une ou deux anecdotes. Balatania avait eu vent qu'il y aurait un pogrom contre les Juifs. C'est pourquoi il a rassemblé les gens riches et influents, elle leur a dit, il faut faire quelque chose. Alors ils l'ont dit, passez vite, cher rabbin. Lorsque vous prenez des décisions en matière de religion, vous ne nous appelez pas afin de nous associer. Alors nous ne sommes pas des pièces sur l'échiquier. Si vous avez besoin de nous pour pallier les problèmes du peuple juif, il faut également nous consulter et nous prendre en considération pour les décisions religieuses. Et puis si vous pouvez vous passer de nous pour les problèmes religieux, et bien vous passerez également de nous pour sauver le peuple juif. Il leur a dit, effectivement, je me passerai également de vous pour sauver le peuple juif. La délivrance viendra d'un autre côté. Vous n'êtes pas les seuls. Avalatem, ou bet avichem tovedu. Vous périrez. Autrement dit, il y a des processus qu'on ne peut pas arrêter. Bon gré, mal gré, ils continueront. Ce que nous vivons en champ, nous vivons actuellement, c'est un processus irréversible. Notre problème n'est pas de savoir si ce processus aboutira ou non, peut être enrayé ou non, il ne sera pas enrayé. Mon problème, c'est de savoir si je veux participer à ce mouvement ou si je veux essayer de l'enrayer. Mais j'arriverai pas à l'enrayer. Je parle des deux mouvements. Le mouvement spirituel et le mouvement national, etc. J'arriverai pas à l'enrayer. Pourquoi t'arriveras pas à l'enrayer? Et si tous décident de l'enrayer? Mais jamais tous ne décideront de l'enrayer. Il y aura toujours des gens qui tireront en avant. C'est la célèbre parabole de la 4 chevaux. C'est un type qui a une voiture à chevaux. Il a 2 chevaux devant. Et il a 2 chevaux de réserve derrière. Et quand les chevaux de devant sont fatigués, les naseaux écumants, alors il change, il permute. Puis le cheval de derrière, il se fait du refèche. Et il galote plaisamment. Puis des fois, le cheval de derrière, il a des pulsions rebelles. Puis il essaye d'arrêter la voiture. Mais c'est impossible. Car 2 chevaux qui tirent en avant sont 2 chevaux. Même. Que 2 chevaux qui tirent en avant sont infiniment plus puissants que 2 chevaux qui tirent en arrière. Comme c'est expliqué dans la physique du cheval. C'est pourquoi vous pouvez tirer en arrière tant que vous voulez. Nous, on continue à avancer. Nous continuons à tirer en avant la voiture du Messie. Personne ne peut enrayer ça. Parce qu'il y a toujours qui tire en avant. C'est ça que vous allez décider. Est-ce que vous voulez être un cheval de tête, ou est-ce que vous voulez essayer de bloquer le processus? Et puis en fin de compte, vous brisez les côtes. C'est ça la décision qui nous est donnée. Parce que ça, nous en sommes certains, que les forces vives, elles ne disparaîtront jamais. Et même à des époques tragiques, horribles, où le peuple juif était presque complètement déversé dans la turpitude, dans le péché. Il y a toujours eu des forces saines qui sont restées. Même si c'était une minorité infime, c'est pas grave. C'est pas les révolutions dans l'histoire. Elles peuvent être également faites par des groupes très petits. C'est pas la quantité qui prime. Quand disait notre ami le juif Marx que la quantité fait la qualité, nous nous permettons de ne pas être d'accord avec lui sur ce point. Je me rappelle avant les dernières élections, il y a un journaliste, c'est déjà intéressant ces journalistes. En général, ça permet d'élucider des problèmes parce que tout ce qu'ils disent, le contraire est exact. C'est tellement précieux. Alors il me dit, alors qu'est-ce qui va se passer après les élections? J'ai dit, vous me posez la question en tant que quoi? En tant que prophète ou... Alors, vous savez, moi, je ne suis pas prophète. Je suis quand même un peu humble. Alors, il me dit, non, mais alors, vous comprenez, parce que si ce parti-là, il vient au pouvoir, alors il se passera ça. Alors, si celui-là, il viendra, il se passera ça. Et puis, si vous en dites, je sais que vous en dites. J'en sais rien, moi. Je dis que je ne suis pas prophète. Mais si vous croyez que ce sont les partis politiques qui font l'histoire, vous vous trompez. Ceux qui font l'histoire, ce sont les hommes d'esprit qui font l'histoire. Pas l'histoire immédiate. À savoir, si le prix du dollar sera équivalent au prix du yen, ou un peu plus, ou un peu moins. Oui, ça, c'est ça. L'histoire immédiate, ce ne sont pas les géants de l'esprit qui la font. Mais l'histoire, à longue échéance, ce sont les gens de l'esprit qui la font. Alors vous croyez que c'est moi, je suis une girouette, et que je change mes positions selon chaque vent politique qui tourne. Je dis, moi, quand j'écris un article, je dis bien qu'il ne vaut rien, mais du moins, j'essaye d'écrire un article qui tienne, bon, 200 ans. Peut-être qu'il dit qu'il ne vaut rien même un seul jour. Mais au moins, j'essaye d'écrire. Alors que vous, quand vous écrivez un article, il est bon aujourd'hui et demain aussi, pour enrober le beurre qu'on achète. Voilà. C'est, vos articles, c'est pour du beurre. Donc, nous ne sommes pas tellement effrayés par les soi-disant acteurs de l'histoire. Je dis, voyez, il y a une espèce de philosophe, maigre et frêle et tremblotant, qui est assis dans son bureau, une vieille bougie. Il a des toiles d'araignée sur les aisselles. Et puis il écrit sur avec un vieux crayon sur du vieux papier. Puis après, ce livre traverse l'humanité et renverse toutes les structures. Pas sur le champ. Ça met du temps. C'est vrai. Donc, même si les forces vivent, les forces saines de la nation, elles sont en minorité, comme c'était par exemple à l'époque du prophète Isaïe. Le roi Achaz avait fermé toutes les synagogues au double cadenas. Toutes les synagogues, toutes les études, tous les sifrei Torah, comme une espèce d'époque russe de détoratisation. Détoratisation totale. Ouais. Mais il y avait quand même le prophète Isaïe et quelques disciples. Et puis ils ont en tout fait revivre. Bien. Peut-être que vous avez quand même des remarques. Des adjonctions. Des soustractions. Là, vous n'avez pas le choix. Alors, Shalom. Shana Tova.